La semaine à peine écoulée s'était annoncée devait être dense, notamment au Vatican et pour le pape, elle le fut, mais également tragique, avec le drame des migrants morts noyés au large de Lampedusa, 300 personnes au moins, dont de nombreuses femmes et enfants originaires de la Corne de l'Afrique. Au lendemain de cette tragédie, la politique migratoire de l'Union européenne est remise en cause. La Méditerranée est un des espaces maritimes les plus contrôlés au monde, notamment via des dispositifs de contrôle frontaliers. Les moyens sont conséquents, mais n'apportent en fait aucune réponse. Alessandra Capodanno du réseau euro-africain Migre Europe nous expliquait.
L'objectif affiché de ces dispositifs est celui de porter secours aux personnes en difficulté en mer. En réalité, de notre point de vue, le véritable objectif est juste de repousser les personnes qui essayent de rejoindre la forteresse Europe. Parce que voilà, si cet objectif du secours était vraiment la priorité, il n'y aurait pas de naufrage à déplorer dans un espace qui est contrôlé.
Le pape François, en visite à Assise, vendredi, confie en tout cas toute sa tristesse pour ce nouveau drame à Lampedusa où il s'est rendu, rappelez-vous, cet été. À Assise, le pape aura invité l'Église et les catholiques à suivre l'exemple de saint François en se dépouillant. Vendredi soir, Mgr Domenico Sorrentino, l'évêque d'Assise, nous confiait combien le pape avait été proche des gens.
Il a surtout témoigné. Ce qu'il a fait, c'est l'évangile vécu. Il a vécu l'évangile devant nos yeux. Quand il a rencontré les personnes avec disabilité, il les a embrassées d'une manière pleine de tendresse, avec un amour qu'on pouvait sentir à distance. Nous avons eu une école d'amour concret, une manière d'être vraiment évangélique.
La semaine du pape François aura aussi été marquée par les 3 jours de rencontres avec son conseil des 8 cardinaux pour discuter d'une réforme de la curie et des priorités de ce pontificat. Les 8 cardinaux semblent tous avoir la fibre sociale. Nous demandions dès lors mercredi à Evelyne Maurice, laïque consacrée et professeure au Centre Sèvres à Paris, s'il fallait y voir une clé de lecture.
Le programme, c'est plutôt le service de l'évangile et de l'évangélisation. Ils ont tous des talents différents et qu'ils les mettent ensemble pour que l'Église fasse avancer sa barque vers le prochain millénaire, ça me semble le plus important. Parce qu'on ne peut pas enfermer ces personnes dans une problématique qui va réduire leur capacité de servir. Au service d'un monde, d'un troisième millénaire, on peut travailler à une meilleure connaissance de l'Évangile et que l'Église remplisse sa fonction, qui est être témoin du Christ aujourd'hui. Ça n'enlève pas la dimension sociale, mais ça ne la rend pas exclusive.
La semaine avait débuté par ailleurs au Vatican par l'annonce de la date de la double canonisation des papes Jean XXIII et Jean-Paul II. Les deux papes deviendront saints le 27 avril de l'année prochaine. L'historien Christophe Dickès, auteur du Dictionnaire du Vatican et du Saint-Siège, nous disait mardi matin que cette double canonisation témoigne de la place qu'ont les papes dans l'Église et auprès des fidèles.
Il faut rappeler qu'au XXe siècle, il y a 9 papes. Et désormais, il y en a 3 qui sont canonisés. À côté de ces canonisations, donc Pie X, Jean XXIII et Jean-Paul II, à côté de ces canonisations, il y a 3 procédures de béatification en cours, celle de Pie XII, de Paul VI et de Jean-Paul Ier. Qu'on remarque surtout dans le geste du pape François, je crois, c'est sa volonté de se référer à ce personnage, Jean XXIII, mais les paroles qu'il peut prononcer sur ce pape sont extrêmement importantes. Elles montrent en quelque sorte la tension entre le faible pouvoir des papes et l'immense force morale qu'ils peuvent constituer et que constituent au fond ces papes tout au long du XXe siècle et du XXIe siècle.
Et du Vatican à l'Italie, il n'y a qu'un pas. La crise politique a vécu un paroxysme cette semaine. Après avoir fait démissionner 5 ministres de son parti qui étaient au gouvernement pour tenter de le faire chuter, Silvio Berlusconi nous a réservé un nouveau coup de théâtre mercredi en votant finalement en faveur du gouvernement l'État lors d'un vote de confiance. Une pirouette, mais aussi une capitulation, comme nous l'expliquait Marc Lazare, professeur à Sciences Po et chercheur au CERI.
Je pense que si Berlusconi a agi comme ça, c'est parce qu'il se sentait complètement isolé et surtout il risquait d'avoir devant le Sénat et donc devant l'opinion une de ses défaites politiques majeures, puisque on sentait bien qu'un certain nombre de ses propres parlementaires, de ses propres sénateurs, allaient voter la confiance à Enrico Letta, alors que le boss, c'est-à-dire lui, avait dit qu'il ne fallait pas le faire. Donc volte-face, la meilleure défense, c'est l'attaque, et par conséquent, c'est une manœuvre à la fois désespérée et assez habile qu'entreprend Silvio Silvio Berlusconi aujourd'hui.
Crise à son paroxysme également aux États-Unis. Le Congrès américain en désaccord total sur un projet de budget. Résultat, l'administration américaine a mis 800 000 employés au chômage technique. Au cœur du débat, la loi sur l'assurance maladie, promulguée en 2010 par le président Obama. Nous avions recueilli les explications d'André Caspi, spécialiste des États-Unis.
Comment équilibrer le budget de telle manière que les dépenses baissent et que l'on accepte en contrepartie que le montant de la dette augmente. C'est là-dessus que porte le conflit. Alors pour cela, il y a différentes possibilités, mais la possibilité la plus souvent exprimée par les membres républicains de la Chambre des représentants, c'est qu'on reporte à un an l'application de la loi sur le système de santé qui coûte de l'argent, bien entendu, au budget fédéral. Mais ce report, le président des États-Unis n'en veut pas, et en conséquence, il y a blocage du système.